Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Désir et liberté, ça ressemble à un sujet de bac. En l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Désir et liberté est le thème choisi par une responsable d'équipe d'éducateurs pour regonfler le moral de son équipe. Elle me demande de faire une conférence débat pour ce public d'éducateurs. J'accepte sans trop bien voir au départ le rapport recherché entre désir et liberté et le rapport aussi entre ces deux idées, désir et liberté, et un public d'éducateurs. Et pourtant, c'est évident, mais nous n'avons pas l'habitude de voir les choses ainsi. Au bout de quelques années, l'enthousiasme de la vocation d'éducateur ou autre, eh bien, ça me nuise. Le désir s'étiole. Parallèlement, la liberté se rétrécit sous la contrainte de la routine et sous la contrainte des consignes. Déjà, au Moyen-Âge, dans les monastères, on donnait à cette dégénérescence le nom d'ascédie. La nonne ou le moine continuait à croire, mais la dynamique s'était peu à peu évanouie. Lassitude, découragement. Comment ranimer le désir et la liberté? Comment retrouver l'envie d'inventer un projet? Cette démarche peut être rapidement décevante. Si je cherche en moi la liberté, je risque bien de ne trouver que son contraire, les déterminismes. Être libre serait être la cause première de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je dis. Être la cause qui elle-même n'a pas de cause antérieure. Les sciences humaines nous rappellent à l'ordre. Mes actes, mes postures, mes paroles sont la conséquence de mes déterminismes génétiques, neurologiques, éducatifs, relationnels, historiques, sociaux. Et pourquoi pas d'ailleurs y inclure mon complexe d'Oedipe. Il n'y a pas de place pour la liberté. Si je cherche en moi quels sont mes désirs, je n'y trouve que convoitise et aussi exaspération. Exaspération de peu à peu apprendre au cours de ma vie que le désir rebondit sans cesse, que le désir est ce qui reste toujours insatisfait, même quand il a obtenu satisfaction. Ce n'est guère motivant pour se libérer de l'ascédie, pour se libérer de la démotivation. Ce n'est donc pas par introspection que l'on va trouver la liberté et le goût de la liberté, mais bien plutôt dans l'action. En fait, l'être humain ressent bien la capacité de tout un chacun de pouvoir faire autrement que ce que semblent imposer mes déterminismes. Dans la critique de la raison pure, Kant, né en 1724 et mort en 1804, Kant prend l'exemple d'un menteur. Il envisage dans le détail les déterminismes qui le poussent à mentir. Hérédité, éducation, mauvaise fréquentation, etc. Mais, dit Kant, le menteur, en tant que conscience, aurait pu faire autrement, aurait pu ne pas mentir. L'animal n'est pas dans ce cas. Le lion est programmé pour chasser et dévorer la gazelle. Il n'est ni méchant, ni bon. Il ne peut pas faire autrement, il est programmé, carnassier, vorace. La question morale, le bien et le mal, ne se pose qu'à l'homme, uniquement à l'homme, qui peut faire autrement que son déterminisme. La liberté n'est pas dans le repliement sur son identité figée. La liberté est ouverture à l'altérité. L'altérité étant le caractère de ce qui est différent, autre, l'autrement. Toujours en capacité de faire autrement. La conscience est interrogation, mise en question. Elle pèse le pour et le contre. Elle envisage un autrement. La personne ne s'est pas choisie. Elle est soumise à de multiples causalités. Mais elle peut se remettre en question. Cette conception est tout à fait compatible avec l'essence chrétienne de la liberté et de l'anthropologie. Bien sûr, je peux toujours me réfugier dans mes déterminismes. Au tribunal, l'accusé peut plaider les circonstances atténuantes, c'est-à-dire plaider les déterminismes de son hérédité, de son manque d'éducation, pour dire « ce n'est pas moi ». Mais qui est responsable, c'est la génétique, c'est la société. Aux yeux des jurés, ça peut marcher. Mais l'accusé, et il le fait souvent dans les procès politiques, l'accusé peut dire qu'il revendique d'être l'auteur, le décideur, le sujet libre de son acte. Ça ne change rien à ses déterminismes, mais ça change tout dans sa vie. Ça change tout pour le jury du tribunal. En revendiquant la responsabilité de mes actes, bien ou mal ces actes, devant autrui, j'existe libre dans le regard qu'autrui porte sur moi, quels que soient mes déterminismes. Ça ne se passe pas simplement au tribunal. Dans la vie quotidienne, je considère le plus souvent les autres comme responsables de ce qu'ils font et disent. Je les considère libres et non comme des marionnettes de leur hérédité ou de leur éducation. Et les autres font de même à mon égard, sinon la vie sociale est impossible. Il en va de même pour les désirs. La vérité du désir n'est pas dans l'intimité de mon identité, mais dans l'ouverture à l'altérité. C'est-à-dire qu'à la suite de nombreux psychologues, il faut distinguer le besoin, la demande et le désir. Le besoin est un manque qui peut être comblé. J'ai soif, je bois. La demande est à la fois claire et ambiguë. Tel enfant réclame à sa mère un bonbon, puis un soin superficiel, puis un mouchoir, puis un verre d'eau, etc. Les demandes sont explicites, mais la maman ne s'y trompe pas. Les demandes ne sont que des prétextes fallacieux. L'enfant désire être aimé de sa mère et vient sans cesse le vérifier. Le désir n'est donc ni le besoin, ni la demande. Le désir ne provient finalement même pas du besoin. Lacan, né en 1901 et mort en 1981, dit que le désir s'instaure de l'interdit. C'est parce que c'est interdit que je désire quelque chose. L'idée n'est pas nouvelle. Saint Paul, c'est un peu inattendu, c'est un apôtre. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 7, dit, je cite, « Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». » Fin de citation. La loi me confronte à l'altérité de l'interdit, et de cette altérité naît le désir. Mais si on veut retrouver la tension du désir, il faut aller encore plus loin vers l'ouverture à l'altérité, c'est-à-dire aller jusqu'à l'altérité d'autrui. Le désir humain est complexe. Je t'aime, tu m'aimes, mais c'est plein d'embûches. L'animal désire un partenaire et réciproquement, et ça marche. La personne humaine désire aussi le partenaire, mais surtout, la personne humaine désire être désirée. Elle désire le désir de l'autre, le partenaire. Et c'est là que ça se complique. Je teste sans cesse jusqu'où je peux être désagréable sans que l'autre me quitte. Je teste perversement si je suis aimé. C'est le thème central des querelles d'amoureux, mais aussi le thème central de la littérature, de la chanson et du cinéma. L'enjeu du désir est plus généralement d'être reconnu comme quelqu'un qui compte. C'est ainsi que l'amour et la violence gratuite ont la même finalité. Faute d'amour, faute de considération, certains jeunes de banlieues difficiles mettent le feu à des voitures pour qu'à l'aube, en ouvrant leurs fenêtres, les habitants les reconnaissent comme des jeunes qui comptent. Bref, pour retrouver la forme, retrouver les désirs et la liberté d'un professionnel, il ne faut pas chercher au-dedans, mais s'élancer au-dehors, s'ouvrir à l'altérité. Ça passe même par l'altérité d'autrui, répondre de ses actes devant autrui en ce qui concerne la liberté, le désir du désir de l'autre en ce qui concerne les désirs.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.